Bonjour, je m'appelle Gilles de Corvey, je suis traducteur littéraire donc du grec vers le français. Καλημέρα σας, με λένε Gilles de Corvey και είμαι λογοτεχνικός μεταφραστής από τα ελληνικά στα γαλλικά. J'ai traduit le poème que vous allez écouter, je l'ai traduit en 2009. En fait, il ne s'agit pas du poème en entier, mais seulement d'extraits. Le titre est en grec Apokopos et le nom de l'auteur c'est Bergavis. En traduction française, ça donne Apocope, le chevalier fatigué, traduction libre déjà dès le titre. Et donc l'auteur, c'est Bergadis. C'est un poème assez ancien. C'est pas du grec ancien, c'est bien du grec moderne. Et d'ailleurs, il s'agit de la première œuvre grecque moderne jamais publiée. Elle a été publiée en 1519 à Venise, mais en fait, c'est un texte qui est encore antérieure, on ne sait pas très bien de quand il date, de probablement une vingtaine d'années auparavant, et on ne sait rien de l'auteur à part ce nom, même pas son prénom, donc ce nom qui nous donne à penser qu'en fait il était lui-même d'origine italienne et même vénitienne en fait, et il n'a pas laissé d'autres œuvres que ce poème, donc Apokopos, dont je vais vous lire quelques extraits d'abord en grec. Il s'agit de vers de 15 syllabes, qui est une forme tout à fait classique en grec. C'est un peu l'équivalent de notre alexandrin. 15 syllabes, donc 8 pieds, césure, 7 pieds, et avec des rimes couplées, donc AA, BB, CC, etc. Je donne tous les détails. Ce texte est paru en 2010 en traduction inédite dans Vice Versa numéro 4. Je commence par une lecture du texte original, les 32 premiers vers. En grec, donc. Μιαν αποκόπου ενίσταξα να κοιμηθώ εθυμήθην. Έθεκα στο κλινάρι μου, κύπνων αποκοιμήθην. Εφάνιστή μου κι έτρεχα λιβάδιν ωρεωμένων. Φαρίνε καβαλίκευγα σε λοχαλινωμένων. Κι είχα στην ζώσιν μου σπαθήν. Στην χέρα μου κοντάριν. Ζωσμένος ήμουν άρματα σαγίτες και δοξάριν. Και φάνη μοτεδίωχ να με θράσω σε λαφίνα. Ώρες εκοντοστένετον και ώρες με βιάν εκείνα. Πουρνών του τρέχειν ήρχισα, τάχα να βάλω χέρα και έτρεχα ώστε και τσάκισεν το σταύρωμαν ημέρα. Και ευθύς από τα μάτια μου εχάθηκεν το λάφιν και πώς και πότε χάθηκεν εξαπορώ του γράφιν. Λοιπόν το ξετρέχειν έπαυσα ομοίως και το σπουδάζειν και το ξετρέχειν τάπιαστον και το θαρρύν κολλάζειν και αγάλι αγάλι επήγαινα. Σιγά σιγά υπερπάτουν. Τον κόσμον εξενίζουν μου τα άνθη και τα καλά του. Και προς την δίλην έσωσα του λιβαδιού την μέσην, κι ύβρα δεντρών εξαίρετον, κι ωρέχθην του πεζεύσιν. Και πέζευσα εις των δεντρών και έδεσα τα λογών μου, και τα άρματα εξεζώστηκα θέτοτα στο πλευρόν μου. Ο τόπος όπου επέζευσα, λέγω εκεί όπου εστάθην, ήταν του λιβαδιού οφαλός, κι ήταν γεμάτος τάνθη. Το δέντρον ήταν τρυφερόν, κι είχεν πυκνά τα φύλλα. Είχεν και σύγκαρπον αθών και μυρισμένα μήλα. Και μύρια ρίφνη τα πουλιά στο δέντρον φολεμένα, κατά την φύση και σκοπόν ελάλην το καθένα. Και από τα κάλλη του δέντρου, την ειδονήν του τόπου, και των πουλιών την μελωδιάν και ολιμερνού του κόπου, ως από βιά σηκούμπησα του παριανά σάνω, και στο χαζόμι το δέντρον εις την κορφή να πάνω. En français maintenant. Un jour où fatigué je somnolais, je voulus m'endormir. Je m'étendis sur ma couche et plongeai dans le sommeil. Je me mis à parcourir en rêve une plaine merveilleuse, à cheval sur un destrier au noble harnachement. À la ceinture j'avais un glaive, à la main une lance, à mon flanc j'étais paré d'un arc et de flèches. Je poursuivais sans relâche, dans mon songe, une biche qui tantôt se figeait brusquement, tantôt filait bon train. Au matin j'avais dû commencer ma course afin de l'attraper, et ma traque ne s'arrêta point avant le mi-temps du jour, quand soudain la biche disparut à ma vue, sans que je puisse dire ni le quand ni le comment de cette fuite. Alors je mis un terme à ma poursuite éperdue, cessant de chasser l'animal et d'épuiser ma monture. Je mis mon cheval au pas, avançant doucement et sans hâte. Je m'enchantais du paysage, de ses fleurs et de ses attraits, puis, vers le soir, j'atteignis le mi-temps de la plaine, et là, voyant un arbre extraordinaire, j'eus le désir de m'arrêter. Je mis donc pied à terre, attacher mon destrier à l'arbre et délaisser mes armes pour les poser à mes côtés. Ce lieu où je me tenais, le terme de ma course, j'entends, se trouvait au cœur de la plaine, et les fleurs le tapissaient. Quant à l'arbre, il était splendide, et son feuillage luxuriant. On y voyait à la fois des fleurs et des fruits, des pommes odorantes, puis d'innombrables oiseaux perchés dans les branches sifflaient des mélodies, chacun celle de son espèce. Et du fait des beautés de l'arbre, de l'agrément du lieu, du chant des oiseaux et des fatigues de la journée, presque à mon corps défendant, je m'appuyais pour reprendre haleine et contempler l'arbre du pied jusqu'à la cime. Alors je vis, en rêve encore, une ruche qui nichait là, avec du miel à de la cire mêlée, abondant et alvéolé. Aussitôt je m'élançai pour grimper, poussé par l'envie d'y goûter, mais l'essaim en colère s'employait à m'en empêcher, de sorte que j'escaladai le tronc à grand-peine, me figeant lorsque je voyais une abeille s'approcher. Puis je tendis la main, récoltai la cire et mangeai le miel en me disant « Régale ton âme, va, donne-lui son content !» Je mangeais sans me rassasier, me gavais sans assouvir ma faim, et puis je recommençais, dévorant à pleine bouche. Or l'essaim, pas un instant, ne cessait de m'attaquer, si bien que l'arbre, je m'en rendis compte, se mit à osciller, à trembler, à ployer, à se pencher dangereusement. Alors j'interrompis mon repas et fus saisi de crainte. Je contemplai l'arbre et les branches alentour, comprenais qu'on s'acharnait à l'abattre. Et m'apparurent deux rats, l'un blanc et l'autre noir, qui tournoyaient au pied de l'arbre, rongeant promptement sa racine. Les rats s'activèrent si bien que le tronc s'arqua, la racine menaçant de se substituer au faîte et l'arbre de basculer. Voyant cela, je voulus me hâter de redescendre, mais retenu par le goût du miel, je demeurai figé sur place. Et l'arbre, que je m'imaginais se dresser au milieu d'une plaine, fut transporté soudain sur le rebord d'un abîme, d'un puits ténébreux, et plus il ployait, me sembla-t-il, plus il aspirait au précipice, tandis que le jour sans cesse diminuait et que la nuit se rapprochait. Ayant égaré tout espoir de salut, je sentis ma dernière heure venue. Alors je vis un dragon terrible au fond du puits qui attendait gueule béante ma chute là-dessous. Puis l'arbre se fracassa, m'emportant avec lui. Les oiseaux s'envolèrent, les abeilles disparurent et moi je me vis choir dans la gueule du dragon, précipité dans une fosse obscure, sous la terre sans soleil. Et là, dans ce lieu sombre où j'étais arrivé, je crus entendre une foule immense réagir, s'agiter à mon entrée, s'émouvoir de ma présence. Une voix pria qu'on vint m'interroger pour savoir qui, dans les enfers, était entré dans la sorte. De la sorte, qui causait tant d'émoi, qui avait ouvert la porte et pénétré là sans y être convié. Alors je vis s'approcher deux formes noires, tendus de toiles d'araignées, deux ombres de jeunes gens, l'un et l'autre bouleversés. Ils me firent la révérence, m'adressèrent un salut courtois, mais moi, saisi de crainte, je ne sus que leur répondre. Et eux de m'interroger. « D'où viens-tu ? De quel endroit ? Qui es-tu ? Que veux-tu ? Et comment te diriges-tu sans guide ici dans l'obscurité ? Comment es-tu venu plein de vie et de sève ? Comment es-tu descendu et comment t'en retourneras-tu dans ce pays qui est le tien ? Quiconque descend aux enfers ne peut retourner sur ses pas. La résurrection des morts seule saurait le ramener. Tu parais à bout de souffle. Tes vêtements luisent. Tu viens de traverser une prairie, dirait-on, de parcourir une plaine. Tu arrives donc du monde, du territoire des vivants. Dis-nous si le ciel existe encore. Si la terre tient debout, dis-nous si l'orage tonne et gronde, s'il brume et s'il pleut, si la voie lactée flotte et s'étire, s'il y a des jardins et des arbres, si les oiseaux chantent, si l'air des montagnes embaume et si les vallées résonnent, y a-t-il de fraîches prairies ? Souffle-t-il un air vivifiant ? Les astres au ciel brillent-ils et l'étoile du matin ? Dis-nous, les heureux vivants se souviennent-ils de nous ? S'apitoie-t-il sur notre sort ? Dis-nous, se désole-t-il ? Depuis ce temps qu'ils nous ont enterrés, sont-ils assez tristes ? Apportes-tu avec toi message, lettre, missive de proches éplorés, ici, dans ce lieu funeste et noir des enfers ? Lis-nous donc ces lettres, fais-nous part de ces messages, et tout ce que nous pourrons dans l'Hadès te donner en échange, nous te l'offrirons volontiers. À chaque phrase, il pleurait. Tous les deux mots, il gémissait. Alors enfin je répondis leur disant « Que me demandez-vous là ? Pourquoi me pressez-vous de vous donner une réponse que vous savez exécrable ? Vous savez ce qu'il en est. Seul cet endroit vous empêche de le voir. Une fois mort et enterré, on n'a plus d'amis dans le monde. La sagesse populaire dit vrai, ce n'est pas un mensonge. Malheur à celui qu'on met en terre et qu'on ensevelit. » J'ajoutai, « Cela vous suffit-il comme réponse ? Car sinon je peux vous en dire encore et davantage, de quoi vous tirer des sanglots, de vous plonger dans mille peines, de vous pousser au plus vite à préférer les enfers. Mais puisque vous me questionnez, je veux vous faire savoir comment vos épouses respectives dans le monde se comportent. Vos jeunes veuves baisent à cette heure les lèvres d'autres hommes. Elles enlacent d'autres corps et vous, elles vous blâment. Elles leur offrent vos habits, leur sellent vos chevaux et se flattent aujourd'hui de ne plus porter votre nom. Puis ce temps vécu jadis en votre compagnie ne représente plus à leurs yeux qu'un jour, une semaine. De votre vivant, elles chérissaient d'autres hommes, elles aspiraient à votre absence, désiraient votre départ. Après qu'elles vous ont enterré et qu'elles ont porté votre deuil, elles ont eu d'autres grossesses, porté un nouveau lait. Par convenance, elles ont faim de verser quelques larmes de tristesse, mais en elles-mêmes, elles rêvaient de vivre avec un autre. » Incapable de répondre et d'attendre davantage, je leur dis pour ménager mon départ et regagner la lumière. « Avez-vous d'autres questions ? Je m'en dois repartir. » Eux me répondirent, « Attends que nous rejoignions les autres, car ils te demanderont peut-être si tu peux leur rendre un service, emporter des lettres personnelles depuis les sinistres enfers. » Ils eurent un conciliabule, puis l'un d'eux se retourna, s'enfuit à petits pas pressés comme gambade d'une biche. Et un bref instant plus tard, je vis une foule s'approcher, un peuple innombrable, sans fin, qui s'en venait de là-bas. J'y aperçus garçons, fillettes, hommes mûrs, jeunes gens, d'éminents militaires à l'épée nue, sans fourreau, d'élégants notables, à cheval ou à pied, secondés de leurs pages, des orateurs, des notaires. Je vis des sacristains, des évêques, des prêtres et, dans leur lit nuptial, des jeunes couples, maris et femmes. Je les vis apporter des chaises pour faire asseoir les notaires, dont chacun tenait une chandelle, du papier, une plume. Chaque notaire se vit entouré d'une foule qui le pressait, un tel réclamant des lettres, un autre hurlant « Du papier ! Un messager s'apprête à partir !» criaient les gens. « Dépêche-toi, écris vite pour qu'il emporte mon courrier !» Et dans leur hâte, ils arrachaient des mains des scribes des lettres encore humides. J'en voyais certains cacheter leurs messages, d'autres ne pas les replier. Ils furent si nombreux à vouloir m'imposer leurs lettres qu'à cette vue je m'effrayai et m'enfuis avant qu'ils m'atteignissent. Tous, ils levèrent les bras et, tournant le regard vers moi, ils se mirent à crier « Prends ma lettre !» à hurler « Mon courrier, prends-le ! Emporte avec toi ces messages personnels envoyés des funestes enfers et prends garde à ne pas les perdre. Répands la nouvelle à ton tour. Parle de ces gens éplorés aux enfers que vous avez ensevelis depuis un temps si long. Les voici privés du ciel. Ils ne contemplent plus la lumière. La terre leur sert de linceul et le sol les habille. » C'est comme ça que se termine le poème donc, de Bergadis, Apocope, le chevalier fatigué, donc, qui racontait une descente aux enfers, comme vous avez compris, en songe. Et on y voit une image qui est assez caractéristique de l'imagerie grecque, des croyances populaires grecques, c'est-à-dire que les morts ne sont pas séparés entre les justes et les injustes, paradis, enfer, etc. Non, ils sont tous dans un monde parallèle qui est en dessous d'une autre. Et ils vivent au fond d'une façon très proche de la nôtre sur Terre, de même que les dieux de l'Olympe en haut de leur montagne vivaient d'une façon très proche de la nôtre. Seulement, ils sont privés de la lumière et de leurs cinq sens, ou quasiment privés de leurs cinq sens, et vivent dans une sorte de pénombre où tout est estompé. Et leur grande douleur, c'est de penser que nous, sur Terre, on les a oubliés. Et c'est ça leur grande douleur. Et voilà pourquoi, en grec moderne, encore aujourd'hui, quand quelqu'un a perdu un proche, on ne lui dit pas tellement « mes condoléances », qui se dirait « tas elipiteriamu », on dit plutôt « na zisis yanatonthimase », ce qui en français voudrait dire « toi, tu dois vivre pour te souvenir de lui » ou d'elle, respectivement.